Bonjour Michel Vieviorca.
Bonjour.
Alors faut-il rappeler que vous êtes sociologue et votre dernier livre interroge notre avenir, l'avenir de la France, face aux grands défis, et pas seulement sanitaires, défis également sociaux, économiques, culturels, religieux, métamorphose ou déchéance, où va la France? Ce livre ambitieux est paru chez Rutzen Édition, et donc pour éviter toute déchéance ou régression, la France n'a pas d'autre choix que de se métamorphoser. Ça veut dire qu'il va falloir faire fi de quelques-unes de nos certitudes ?
Il va surtout falloir en construire de nouvelles, si je peux dire. Il va falloir surtout se projeter vers l'avenir en inventant, en construisant énormément de choses, tout à fait.
Pour que la France se réinvente, il faudra non seulement une métamorphose des mouvements sociaux et culturels, c'est un chapitre, et l'autre chapitre, l'autre métamorphose plus verticale, celle de l'État, qu'elle soit politique ou de l'administration, on va distinguer les deux dans un instant, l'État politique et administratif qui perd de sa légitimité. Ça a commencé quand ?
Ce que j'ai essayé de décrire, c'est un phénomène de longue durée, enfin tout est relatif.
Cette décennie d'après-guerre.
Voilà, je commence à mener mon enquête, en quelque sorte, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et dans un contexte où l'État se reconstruit, ou se construit, et où, entre l'État que j'appelle politique et l'État que j'appelle permanent, administratif, si vous voulez...
Et vous n'êtes pas tendre avec lui, on va y revenir.
Je suis de moins en moins tendre avec lui, ou il mérite de moins en moins qu'on soit tendre avec lui. Mais disons que ce que j'observe, c'est une évolution qui n'est évidemment pas linéaire. On peut pas dire que tout se dégrade régulièrement, c'est pas ça. Ça se complexifie, ça s'alourdit, et surtout, entre les deux, la relation devient beaucoup plus compliquée. Et donc, on en arrive à un moment où, aujourd'hui, on sent bien qu'il faut reconstruire quelque chose, repenser d'abord et reconstruire ensuite.
Repenser l'État politique, est-ce que la rigueur budgétaire qui est apparue sous Mitterrand en 83, et puis ensuite le non-respect de plusieurs traités européens, est-ce que ça a durablement discrédité l'État politique ?
Ça ne l'a pas discrédité, ça l'a distancié, je pense, d'une partie des attentes de la population. On le voit aujourd'hui. Regardez tout ce qui se dit sur l'hôpital, sur le système de santé, où tous ceux qui connaissent un tout petit peu ce système vous expliquent que le problème n'est pas simplement la bonne gestion, le respect des règles budgétaires, ce genre de choses, que le problème c'est de s'occuper des malades, c'est de s'occuper de la santé des gens, et qu'il faut réfléchir autrement. Donc oui, je crois que... Alors le tournant de la rigueur que vous venez d'évoquer, 83, a été un moment crucial.
Le départ de Mauroy et l'arrivée de Fabius.
Voilà, je pense que ça a été un moment crucial dans cette évolution, parce que ça a commencé à introduire une certaine distance entre ceux qui maîtrisent les outils de gestion, les outils budgétaires, et qui vont jouer la carte de l'Europe, et la population.
Aujourd'hui, cette méfiance envers l'État ressemble à une défiance, avec parfois même quelques accès de violence. Est-ce que la République peut résister en tant que garde-fou à toute tentation plus ou moins violente de changement ?
Là, il faut vous m'autoriser un tout petit tunnel, si je peux dire.
Allons-y.
Un tout petit. Si vous voulez, quand on dit la République, on en appelle à l'unité du corps social.
C'est ça.
Nous sommes tous citoyens. Et donc, on en appelle à un principe absolument central de notre vie collective. Mais du coup, on ne dit rien de l'autre aspect de notre vie collective, qui est que le fait que la société est divisée. Le corps social, il y a plein de divisions, de tensions, d'intérêts différents. Ça, la République n'y peut rien. La République peut dire tout le monde est citoyen, nous sommes tous égaux, fraternels, etc. Mais elle ne nous dit pas comment gérer ce qui nous sépare, ce qui nous divise. Et donc, si vous vous contentez de mettre en avant un principe d'unité, la République, sans nous dire comment vous allez faire avec ce qui sépare, ce qui divise, alors les choses se déséquilibrent et le discours devient vite incantatoire et parfois un peu, à mon avis, un peu droitier.
Et cette République, on va y revenir tout à l'heure, on en parlera un peu plus. Cette République, elle fut longtemps un marqueur de gauche. Aujourd'hui, elle semble être acquise à la droite.
Alors ça, c'est un phénomène historique impressionnant. Si on est à la fin du 19e siècle, l'affaire Dreyfus, enfin la France est coupée en deux. Il y avait un historien, Émile Poulla, qui avait appelé la guerre des deux Frances. Ce moment historique où, ou bien on est républicain, Dreyfusard, et évidemment refusant l'antisémitisme, ou bien on est anti-républicain, anti-Dreyfusard. Et donc la France était coupée en deux. républicain, anti-républicain. Aujourd'hui, tout le monde est républicain, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Il y a juste peut-être Éric Zemmour qui me semble un petit peu moins républicain que d'autres.
Il dit à la fin de sa vidéo de candidature, vive la République et surtout, vive la France.
Voilà, le vive la République sort mal de sa gorge, m'a-t-il semblé. Alors, bon, tout le monde est républicain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Simplement, il y a des interprétations différentes de la République qui sont proposées. Et donc, le clivage qui opposait République et anti-République devient un clivage entre des conceptions droitières de la République et des conceptions qu'on peut appeler plutôt progressistes de la République.
Alors je reviens avec l'État, on a parlé de l'État politique, il y a aussi l'État permanent avec lequel vous n'êtes pas tendre, hein, cette grande administration dont vous écrivez qu'elle est enlisée dans la bureaucratie avec des normes à n'en plus finir. Mais est-ce réellement si nouveau que cela? Est-ce que nous devons vraiment, plus qu'hier, subir cette bureaucratie jugée paralysante?
Alors c'est pas seulement la bureaucratie, mais la bureaucratie fait partie du paysage. Je pense que les choses se sont beaucoup alourdies, complexifiées, et que des phénomènes inquiétants jouent ici ou là.
Lesquels?
Alors, je laisserai de côté, parce que je ne pense pas que ce soit la bonne formulation, ceux qui ont parlé d'état profond. L'idée d'un état profond, ça c'est des choses qui ne nous concernent que très très peu.
Il faut définir ce qu'on entend par état profond.
L'état profond, c'est si vous voulez des forces obscures nichées au sein de l'État et qui iraient contre le pouvoir.
On est proche des thèses complotistes.
On n'en est pas très loin et il me semble que c'est pas ça le problème. Par contre, j'ai utilisé des formules qui me plaisaient parce qu'elles disaient quelque chose. L'état gazeux et l'état fangeux. Alors, la première dérive, c'est l'état gazeux, c'est-à-dire une sorte d'agitation plutôt sympathique, progressive, mais qui ne débouche sur pas grand-chose. Et c'est une expression qui prolonge d'ailleurs une autre d'un sociologue qui est mort il y a 3-4 ans, qui s'appelait Zygmunt Bauman, qui parlait d'état liquide, enfin de monde liquide. Et puis, l'état que j'ai appelé fangeux. Alors moi, je l'ai vécu, cet état fangeux, dans mes démêlés avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. J'ai vu comment des choses... pas très brillante fonctionnaire. J'ai vu la Cour des comptes s'empêtrer à mon égard.
Et chercher des poux, oui.
Ah oui, de façon indécente, je peux le dire. Je ne généralise pas.
C'est votre commentaire.
Mais je l'ai vécu.
Il est libre ici.
Je l'ai vécu et je dis pourquoi dans mon livre. Donc j'ai vu tout ça. Et donc là, si vous voulez, c'est l'État qui n'est plus articulé à un projet politique, à une vision politique. Même s'il y a des liens entre les politiques et les administratifs, bien sûr.
Une autre métamorphose indispensable, si la France veut se réinventer, ça concerne les mouvements sociaux, les corps intermédiaires. Par exemple, les syndicats qui ont perdu de leur influence. Pour quelles raisons, d'ailleurs?
Alors, il y a deux problèmes. Je crois qu'il y a un problème d'abord de longue durée. C'est l'évolution générale de notre pays qui sort d'un type de société pour entrer dans un autre type de société. Donc il faut regarder ce qui se joue du côté de la société civile du point de vue de cette entrée. Le syndicalisme, c'est la grande figure contestataire de la société industrielle. C'est le monde ouvrier, d'abord et avant tout, même si ça n'est pas que ça, bien sûr. Et nous entrons dans un autre monde où l'industrie n'est plus le lieu central des contestations de demain. Les contestations de demain, si je vous dis qu'est-ce qui incarne le plus pour vous la jeunesse des contestations, ou la contestation de la jeunesse, comme on voudra, c'est tout ce qui touche à l'environnement, au changement climatique, tout ce qui touche à la question du genre, au rapport aux femmes, tout ce qui touche à des questions éthiques, peut-être qu'on en parlera, y compris l'antiracisme. Vous voyez, si je vous dis non, ça se passe dans l'atelier, dans l'usine, l'avenir social, à l'avenir de la société civile, vous me direz, oui, bien sûr, ça existe, mais ça n'est plus central. Et donc, le syndicalisme doit se restructurer s'il veut jouer un rôle demain, ce qui n'est pas exclu du tout.
Se restructurer, ça veut dire quoi, en fait?
Se repenser.
Alors, il faut surtout qu'il fédère du monde. Il n'existe pas sans ses adhérents.
Voilà. Et donc, moi, je pense que un des avenirs possibles du syndicalisme dans un pays comme l'autre, c'est sa capacité à articuler les problèmes interne des entreprises, du monde du travail, et les problèmes généraux que je viens d'évoquer, l'environnement, le genre, ce genre de questions. Et donc, je crois que le syndicaliste est appelé à devenir une sorte d'opérateur ou de la liaison entre des univers qui ne sont pas les mêmes, du tout. Donc, ce genre de choses est important. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de sympathie, ça apparaît dans mon livre, donc je peux le dire pour la CFDT, elle fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, pour montrer qu'on peut articuler le social et l'environnement.
Et ça ouvre le débat entre le syndicalisme d'accompagnement et celui de combat. Enfin, c'est encore une autre histoire. À propos des marqueurs récents de contestation, on a entendu révéler un nouveau mot, le wokisme, qui serait, selon vous, une notion qui n'existe pas. Vous déniez ce courant de pensée, ce courant d'action.
Alors, on rentre dans une chose compliquée, mais il y a aujourd'hui tout un nouveau système sémantique, tout un nouveau vocabulaire pour désigner le mal. Alors,
pas le
c'est
mal,
quoi le mal, M-A-L.
Ah oui.
Le mal. Mais d'ailleurs, le mal, M-A-L,
on mettra un E aussi,
complexe, L-E aussi, si l'on veut. C'est-à-dire, on vous parle de, je terminerai par le wokisme, d'islamo-gauchisme, d'intersectionnalité, d'études postcoloniales, d'études décoloniales, etc. Et on arrive à wokisme. Alors, woke, c'est un mot, alors c'est très amusant, parce que ceux qui sont dans cette critique de l'islamo-gauchisme, etc., disent en plus, ils importent, en parlant des soi-disant wokistes, ils importent leur catégorie des États-Unis. Eux, ils importent le mot woke, ils sont incapables de le traduire en français.
To wake up, s'éveiller.
Voilà. Alors, au début, c'est un mot positif. Ça veut dire éveille-toi. Éveille-toi. Alors, on en appelle à la conscience, à la contestation. Et puis, la critique aux États-Unis a consisté à dire non, pas du tout, c'est pas de l'éveil, c'est les pires horreurs. Et effectivement, il y a dans les mouvements, le mouvement noir, le mouvement féministe, le mouvement sur les questions d'environnement, etc., il y a dans tous ces mouvements des dérapages, des dérives, des excès. Aux États-Unis, il y a des choses très graves dans les universités.
Et donc, pourquoi, selon vous, ce wokisme n'a pas à être cité plus que ça?
Parce que les problèmes français ne sont qu'accessoires. Enfin, je ne vois pas pourquoi on appelle wokiste la face sombre, la face inquiétante, les dérives de questions qui sont portées aussi par des acteurs beaucoup plus respectables. Je pense que il y a très peu d'exemples qui sont donnés du soi-disant wokisme en France. Quand on saute sur les indigènes de la République, comprenez, ça n'est pas grand-chose, les indigènes de la République. On saute sur quelques dérapages dans les instituts d'études politiques ou ailleurs. Oui, bien sûr, je ne les nie pas, je ne les minimise pas. Mais moi, qu'on me parle aussi de discrimination, qu'on regarde ce qui se passe dans les entreprises, qu'on regarde ce qui se passe dans la recherche, on s'apercevra que tout ça n'est quand même pas le cœur de la vie collective.
Michel Wiewiórka, votre dernier livre, Métamorphose ou déchéance, avec cette question, où va la France? Pour quelles raisons les comités citoyens et autres conventions citoyennes sont à vos yeux de bons leviers pour métamorphoser les institutions?
Devraient être de bons leviers. Nous vivons une crise de la représentation politique. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, c'est évident. Notre système politique est en crise.
On va en dire un mot dans un instant.
Et parmi les réponses que l'on peut apporter à cette crise, on peut penser qu'il faut ajouter à la représentation politique la lester en quelque sorte d'autre chose que l'on appelle la démocratie participative. Et donc, ce que vous venez d'évoquer, les comités citoyens, il y a mille et une autres formules, ça peut être une très bonne chose, à condition que ce soit quelque chose qui vienne d'en bas et pas seulement d'en haut.
Et donc vous êtes déçu par les dernières expériences quand l'exécutif n'a pas tenu assez compte des conventions citoyennes, qu'elles soient sur les énergies non polluantes ou sur les vaccins?
Moi, si vous voulez, je constate que tout ce qui fait verticalité de haut en bas, et c'est comme ça que ça se passe, est condamné, comment dirais-je, à une relative impuissance. Et donc, c'est plutôt sympathique de dire à des citoyens, occupez-vous de ceci, de cela. Mais enfin, quand on nous dit que 35 citoyens vont s'occuper des problèmes de vaccination, on n'a pas entendu grand-chose. Je ne dis pas que c'est inintéressant, ce que disent ces citoyens. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va revitaliser la démocratie.
Un mot sur le déclinisme qui est devenu un courant de pensée électorale à l'extrême droite notamment, qui idéalise un supposé âge d'or quand la France construisait des TGV, des Concorde également. Et ça semble trouver un écho dans les sondages, dans les intentions de vote en vue de la présidentielle. Est-ce que vous en avez été étonné?
J'en suis consterné surtout, plus qu'étonné. Vous savez, à partir du moment où le système politique se décompose, à partir du moment où il n'y a plus les médiations qui permettait le débat démocratique, qui permettait la négociation, le compromis, qui permettait de faire remonter les problèmes sociaux par le bas. Il n'y a plus que l'État vertical qui fonctionne de haut en bas, je simplifie, et une société inquiète, défiante, quand c'est ça le cœur finalement du fonctionnement de notre vie collective, alors oui, il y a beaucoup de place pour le déclinisme, le complotisme et beaucoup d'autres choses. Je voudrais ajouter une chose, c'est que le déclinisme aujourd'hui a pris une forme aiguë en se liant à des thématiques d'extrême droite en ce qui concerne l'immigration. Ça a un nom, les théories dites du grand remplacement. Bon, c'est-à-dire l'idée que dans quelques dizaines d'années, peut-être même encore plus vite, nous aurons été tellement envahis par toutes sortes de barbares que finalement, nous autres de civilisation et de culture française, nous n'aurons plus d'existence.
Une théorie du grand remplacement qui n'est pas compatible avec les chiffres, quand on regarde un petit peu l'immigration, les chiffres de l'immigration en France, cette théorie ne tient pas la route au regard des chiffres.
Écoutez, il se trouve que je fais un séminaire avec Hervé Lebras, le démographe, chaque semaine, et qu'il va publier dans quelques semaines un livre qui rendra vraiment justice, une fois pour toutes, à toutes les critiques qu'il faut faire à cette théorique et fumeuse.
Alors, il y a un autre déclin en France, c'est celui de la gauche qui n'arrive plus à rassembler suffisamment pour espérer figurer au second tour de l'élection présidentielle. Et vous avez publié récemment une tribune à ce sujet. Pourquoi le socialisme en France ne fait-il plus d'espoir ?
Là aussi, il faut réfléchir à plusieurs niveaux. Sur la longue durée, je pense que la pensée française du socialisme a disparu. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de corpus théorique, mais il n'y a plus de...
Arrêtons-nous là-dessus un instant, parce que les premiers secrétaires du Parti Socialiste successifs n'ont pas assez bossé ?
Je suis, moi, très critique sur la période François Hollande. Je pense qu'on s'est arrêté de travailler intellectuellement à ce moment-là. Martine Aubry, quand elle était première secrétaire du Parti Socialiste, avait mis en place un laboratoire des idées. Mmh. Le jour où François Hollande est devenu président, il a été fermé, et ça traduisait bien l'idée que le problème n'est pas de travailler à la construction de choses un peu élaborées. Et donc, je dis pas qu'ils ont complètement arrêté de travailler, mais enfin, il n'y a plus pas eu de travail. Et puis, surtout, il y a une incapacité à répondre aux attentes, aux enjeux qui sont ceux de la société d'aujourd'hui. Et donc, cette incapacité, ben, on la paye aujourd'hui de façon spectaculaire, oui. Il n'y aura évidemment pas un président de gauche à la prochaine élection.
Avant le président Hollande, il y avait une hypothèse Strauss-Kahn, une social-démocratie. Vous dites, vous, que la social-démocratie n'a jamais été de gauche?
Alors, non, je dis que la France n'a jamais été social-démocrate. Il faut donner au mot un sens précis. La social-démocratie, historiquement, c'est le parti posé sur les syndicats. Bon, bah aujourd'hui, on n'a jamais vu vraiment en France, à part le communisme qui n'était pas vraiment ce modèle-là, d'ailleurs, qui était un autre modèle, mais on n'a jamais vu de lien fort entre le monde socialiste et le monde syndical. Et donc, appelons les choses autrement. Il faut parler d'un autre socialisme que de social-démocratie. Donc rien que ça, c'est de la paresse. C'est incantatoire.
La France, elle va se métamorphoser ou bien déchoir. Métamorphose ou déchéance, où va la France? Donc le titre de votre livre, un livre ambitieux hein, qui retrace 70 ans de vie sociale, étatique, politique, pour comprendre les leviers de cette métamorphose indispensable à moins de déchoir. Merci Michel Wiewiórka d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Je précise que le livre est paru chez Rudsen, que vous connaissez bien, cette maison d'édition. Merci et bonne journée à vous.
Merci.